demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. La canicule s'apprête à faire une pause avec les premiers orages attendus en fin de journée. Nouvelle alerte aux incendies dans le nord du Rhône. La canicule qui met aussi notre réseau électrique à rude épreuve. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. À Lyon, la municipalité annonce le lancement d'une commission générale dès la rentrée contre les violences sexistes et sexuelles. Feu vert pour le futur bus express entre l'Ain et le Rhône. Et puis nous parlons également de l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI. Comment former les citoyens éclairés, dotés d'un esprit critique aiguisé face au flot ininterrompu d'informations et à l'essor des intelligences artificielles génératives. Notre invité aujourd'hui est Serge Barbet, le directeur du CLEMI.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Météo France maintient le département en alerte orange pour la canicule, mais y ajoute désormais une alerte orange aux orages. Après 9 jours consécutifs de dômes de chaleur et un pic à plus de 38 degrés hier après-midi à Bron, le thermomètre va légèrement baisser pour afficher 35 degrés aujourd'hui. Mais l'ambiance s'annonce lourde. En fin de journée, soyez prudents, de violents orages sont attendus avec des averses potentiellement fortes. La seule bonne nouvelle de cette dégradation, c'est que ces pluies devraient enfin rafraîchir l'atmosphère et nous offrir une nuit prochaine un peu plus respirable. Nouvelle alerte aux incendies dans le nord du Rhône. Ce mardi 14 juillet, en début d'après-midi, un feu de végétation a détruit 2000 m² de verdure au lieu-dit de l'Orme d'Ecperse, à Chenlette. Sur place, la solidarité locale a joué un rôle clé. Les agriculteurs sont immédiatement intervenus pour contenir les flammes avant l'arrivée d'une trentaine de sapeurs-pompiers et de leurs engins. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce premier sinistre a provoqué un second départ de feu à quelques centaines de mètres de là, sur la commune voisine de Saint-Didier-sur-Beaujeu. L'incendie s'est déclaré peu de temps après, en bordure de la départementale 129. Heureusement, les secours ont pu le circonscrire là aussi très rapidement. La canicule met aussi notre réseau électrique à rude épreuve. À Lyon, les sols ont surchauffé pour atteindre les 80 degrés, faisant littéralement claquer les câbles souterrains. Résultat, plus de 170 incidents notables en seulement quelques jours. Avec des nuits tropicales, le réseau n'arrive plus à refroidir. Enedis enregistre environ 20 à 25 coupures majeures par jour. Proche de la gare de Perrache, les techniciens ont dû ainsi s'activer sur une énième panne. Des techniciens mobilisés 24 heures sur 24, si le courant est souvent rétabli à distance via les lignes de secours, la multiplication des pannes crée des goulots d'étranglement. Pour adapter ce réseau géant au changement climatique, le gestionnaire investit chaque année quelques 40 millions d'euros à Lyon pour remplacer les câbles les plus sensibles. À Lyon, la municipalité passe à l'offensive contre les violences sexistes et sexuelles. Le maire écologiste Grégory Doucet annonce le lancement d'une commission générale dès la rentrée. Rompre le pacte du silence, c'est le mot d'ordre du maire de Lyon. Dans une tribune publiée sur LinkedIn, Doucet annonce la création en septembre de cette commission municipale dédiée à la lutte contre les VSS. L'objectif est clair, réunir tous les groupes politiques et les associations pour déboucher sur des actions concrètes. Grégory Doucet souhaite ainsi mettre en place un pacte municipal de protection des victimes qui s'appliquera à l'ensemble des politiques publiques de la ville. Cette initiative locale fait écho à un mouvement plus large. Dimanche dernier, le maire de Lyon et 600 autres élus de gauche signaient déjà une tribune nationale pour réclamer une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Feu vert pour le futur bus express entre l'Ain et le Rhône. La région Auvergne-Rhône-Alpes vient de reconnaître l'intérêt général de la ligne de bus à haut niveau de service qui reliera Trévoux à Lyon. Le président de la région, Fabrice Pankouk, confirme sa volonté de mener le projet à bien et lance les prochaines démarches administratives et environnementales. De son côté, la métropole de Lyon a également donné son feu vert pour adapter son plan d'urbanisme. En discussion depuis 2019, cette ligne de 28 km traversera 16 communes sans correspondance. L'objectif, offrir une alternative fiable et décarbonée à la voiture individuelle. Et puis une bonne nouvelle pour les usagers, pour répondre à leurs demandes, un nouvel arrêt vient d'être ajouté. Le bus desservira directement le secteur de la gare de la Part-Dieu.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
Comment former des citoyens éclairés, dotés d'un esprit critique aiguisé face au flot ininterrompu d'informations et face à l'essor des intelligences artificielles génératives? C'est le défi titanesque de l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI. En France, le bras armé de cette mission s'appelle le CLEMI, créé en 1983. Le CLEMI a vu ses enjeux s'accélérer dramatiquement ces dernières années, notamment depuis les attentats de 2015 et les drames récents qui ont touché le corps enseignant. Aujourd'hui, l'EMI ne s'arrête plus aux portes de l'école, elle s'invite à l'université, auprès des parents et s'exporte même à l'international. Mais face à la fragilité économique des médias traditionnels et face à la concurrence asymétrique des grandes plateformes numériques, quels sont les véritables moyens d'action sur le terrain? Pour en parler, nous avons rencontré Serge Barbet, directeur du CLEMI, à l'occasion des assises de l'EMI organisées par le Club de la Presse de Lyon au Musée Gadagne.
À l'origine, c'est un universitaire qui s'appelle Jacques Gonnet, qui effectivement a réussi, avec un certain nombre de Lyonnais d'ailleurs, dont Alain Heck à l'époque, à créer le CLEMI, à convaincre les pouvoirs publics de prendre la nécessité de ce décret créant le CLEMI le 26 avril 1983, en octroyant 20 postes au sein de l'éducation nationale dédiés à ce centre d'éducation aux médias et à l'information. Et puis les choses vont aller relativement vite, les fondateurs du CLEMI vont créer une semaine de la presse et des médias dans l'école en 1989 et depuis 43 ans maintenant, le CLEMI ne cesse de se déployer avec ses réseaux académiques, avec l'ensemble de ses partenaires, parce que sa nature c'est de faire travailler ensemble les acteurs de l'enseignement et des médias, et donc c'est quelque chose qui aujourd'hui, à l'ère des révolutions numériques, inspire énormément de pays à l'étranger.
Et les choses se sont accélérées évidemment en 2015.
Alors oui, on parle de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, et puis malheureusement, notre pays a été frappé depuis par d'autres attentats. Un enseignant a été décapité parce qu'il enseignait la liberté d'expression à ses élèves de 4e. Un autre a été poignardé, professeur d'histoire-géographie. Enfin, on connaît effectivement la litanie des drames qui ont frappé notre pays. Et donc, effectivement, en réaction, les pouvoirs publics, je dirais, ont toujours rappelé la nécessité d'un renforcement de l'éducation aux médias. Après, on ne doit pas prendre des politiques publiques uniquement en réaction à de telles tragédies, mais bien construire des politiques publiques sur le long terme, sur ces enjeux qui touchent finalement à notre capacité à former des citoyens engagés, responsables, capables de se forger une opinion par eux-mêmes, de faire preuve d'esprit critique en un mot.
La France, on a l'impression, fait école aujourd'hui ?
Disons qu'il n'y a pas de région dans le monde qui échappe aujourd'hui à cette interrogation fondamentale de savoir comment résister aujourd'hui au jeu des plateformes et des réseaux sociaux numériques. Et oui, on a eu un temps d'avance en créant le CLEMI en 1983. D'autres centres dédiés à l'éducation aux médias aujourd'hui se créent à l'étranger. Nous sommes engagés dans des coopérations extrêmement fortes. Nous avons créé, il y a 2 ans, le réseau francophone d'éducation aux médias et à l'information. Nous venons de publier avec l'UNESCO un guide « Grandir dans un monde connecté, ça s'apprend » avec des expertises de 37 pays. Nous avons également des programmes financés par la Commission européenne en matière de lutte contre la désinformation. Donc nous voyons bien aujourd'hui que ces questions doivent impérativement être traitées dans un esprit d'ouverture et de dialogue entre les pays.
La place de l'EMI, ce n'est pas uniquement à l'école.
L'EMI tout au long de la vie, on dit aujourd'hui, parce qu'évidemment, ça doit commencer à la maternelle, dans un cursus scolaire qui doit amener les élèves jusqu'à la sortie du lycée, dans les études supérieures. Donc nous avons développé en 2023 l'offre CLEMISUP pour les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, et nous développons dans le domaine de la parentalité numérique tout un univers de ressources, de formations, pour accompagner aujourd'hui les parents, parce que c'est effectivement fondamental d'avoir ce continuum entre ce que les élèves vont apprendre à l'école et ce qu'ils vont devoir vivre à la maison.
Qui doit pratiquer aujourd'hui l'EMI, des journalistes ou des professionnels?
L'EMI a toujours été une cause commune en France entre les acteurs de l'enseignement et des médias, et aujourd'hui nous avons plus que jamais besoin, nous acteurs de l'enseignement, de pouvoir bénéficier de l'expertise aujourd'hui des acteurs de la presse et des médias. Et c'est pour ça que nous pouvons nous inquiéter aujourd'hui de la détérioration aujourd'hui de l'économie d'un certain nombre de ces acteurs, parce que quand on touche effectivement aujourd'hui à l'information, on touche à ce qui fonde le socle de nos démocraties, et donc il est extrêmement important que nous soyons vigilants aujourd'hui sur le bon équilibre entre les médias, les professionnels de l'information et des médias, leur rôle dans l'éducation, auprès des enseignants, et effectivement le jeu des plateformes et des réseaux sociaux qui exercent de plus en plus une concurrence asymétrique d'un point de vue économique, qui capte les ressources publicitaires, qui capte de plus en plus aujourd'hui avec les derniers avatars avatar des évolutions des technologies, des IA génératives, les contenus produits par les acteurs de la presse et des médias en les désindexant. Et donc, effectivement, on a un problème aujourd'hui sur une juste répartition des revenus liés à la production de l'information. Et c'est un enjeu plus global de souveraineté pour notre pays comme pour toutes les nations.
Il faut mesurer l'impact également de ces actions émises, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui se lancent là-dedans, qui ne sont pas forcément au point.
Vous avez raison. Il faut être extrêmement prudent parce qu'effectivement, nous répondons d'une exigence de l'école. L'EMI est aujourd'hui à la fois institutionnalisée, elle est présente dans les programmes d'enseignement à bien des égards, et puis elle fait l'objet effectivement d'activités pédagogiques menées souvent sur le bon vouloir d'équipes éducatives avec des partenaires. Et donc il est extrêmement important de pouvoir cadrer, évaluer la pertinence de ces actions. Ce qui se passe dans le champ scolaire, dans le cadre des enseignements, nous avons évidemment une vision assez précise des choses et c'est cadré. On est sur la définition des notions, des concepts en éducation aux médias. Nous travaillons sur les fondamentaux, mais il peut arriver effectivement que des aventures soient plus hasardeuses, auquel cas le ministère demande au CLEMI d'exercer son rôle d'expert pour juger, estimer la validité aujourd'hui des propositions qui lui sont formulées. Après, en dehors de l'école, dans l'éducation populaire, on a aussi des partenaires aujourd'hui qui ont beaucoup grandi, qui ont beaucoup évolué dans leur perfectionnement sur l'appréciation de ces enjeux. Donc globalement, bon, je dirais que le principal sujet aujourd'hui, c'est plus la question des moyens que de penser qu'il y aurait des dérives dangereuses dans ce domaine.
Serge Barbet, directeur du CLEMI. La promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur a récompensé 619 personnes cette année, dont trois figures bien connues dans le Rhône. Toutes trois sont élevées au grade de chevalier. Parmi elles, Sidonie Mérieux, fondatrice d'un cabinet lyonnais en gouvernance d'entreprise et ancienne administratrice de l'Olympique lyonnais pendant 12 ans. Nommé sur proposition du Premier ministre. Le monde de la justice est aussi à l'honneur avec Maître Farid Hamel, l'ancien bâtonnier du barreau de Lyon, aujourd'hui président du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région, est distingué par le ministère de la justice. Enfin, l'ancienne eurodéputée et vice-présidente du Parlement européen, Sylvie Guillaume, reçoit également la prestigieuse distinction. Celle qui fut l'adjointe de Gérard Collomb à la mairie de Lyon est récompensée sur proposition du ministre de l'Intérieur, saluant ainsi son engagement associé pour l'accueil des réfugiés. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve demain pour la prochaine édition.